France Inter.
Aujourd'hui, comment les animaux exotiques envahissent le monde, raconté par...
Cléopâtre Smaïa, professeur au département d'écologie et évolution à l'Université de Lausanne.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tout commence par une drôle de scène. Un matin de printemps, dans le calme du parc Montsouris à Paris, une volée d'oiseaux verts traverse le ciel en piaillant. Pas des moineaux, pas des merles, des perruches, oui, des perruches à collier, vert fluo, bec rouge, vol nerveux, comme un éclat de jungle dans le ciel de la capitale. À Paris, en Ile-de-France, elles sont désormais partout. On les voit et on les entend, on ne peut plus les ignorer. Comment sont-elles arrivées là? L'histoire remonterait aux années 70, une erreur logistique à l'aéroport d'Orly. Un conteneur mal fermé, une cinquantaine d'oiseaux destinés aux animaleries s'échappent. 20 ans plus tard, même scénario à Roissy, deux foyers d'évasion qui peu à peu croisent leur lignée et donnent naissance à une colonie improbable, urbaine et chatoyante. Une colonie qui s'installe, prospère et qui s'adapte. Aujourd'hui, plus de 15 000 individus volent au-dessus de la région parisienne et ce chiffre double tous les 5 ans. Au début, tout le monde applaudissait, un peu de couleur dans le gris du béton. C'est un air d'exotisme en pleine ville. La perruche devient la mascotte involontaire des parcs publics. Mais avec le temps, l'idylle se corse, les cris stridents fatiguent, les fientes s'accumulent et les dortoirs aériens dérangent les riverains. À Massy, on finit même par ordonner l'euthanasie de 900 individus, une opération radicale sans lendemain, car les oiseaux, eux, sont restés. Alors faut-il s'inquiéter de ces oiseaux, justement? Biologiquement, la question fait débat. La perruche à collier est classée comme espèce exotique envahissante, mais son impact sur la biodiversité reste modéré. Elle ne chasse pas, ne détruit pas, cohabite sans trop d'heures avec les mésanges, les sittelles, les pies ou les geais. Mais d'autres problèmes émergent, comme les nuisances sonores, la salubrité publique et les tensions de voisinage. La perruche devient une question de cohabitation plus que d'écologie. La Ligue pour la protection des oiseaux plaide pour l'adaptation plutôt que l'éradication. Pendant ce temps-là, la nature a repris ses droits, les rapaces urbains commencent à intégrer la perruche à leur menu nocturne. Une régulation discrète mais bien réelle qui semble s'amorcer. Et si finalement la perruche à collier était moins un problème qu'un symptôme, un signe flamboyant, bruyant et coloré de nos déséquilibres écologiques, une piqûre de rappel venue d'Inde et du Pakistan, pour nous rappeler que la ville n'est pas un sanctuaire clos, mais un carrefour et un écosystème en mouvement. Et chaque oiseau, même venu d'ailleurs, y trouve parfois sa place. Les perruches à collier sont loin d'être les seuls animaux exotiques à avoir tiré bénéfice de leur grande capacité d'adaptation. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Cléo Bertelsmeyer.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Favre « Comment les animaux exotiques envahissent le monde » avec le chant des perruches sous notre voix. Parce que le cas de la perruche à collier est bien connu des habitants de l'Île-de-France, mais pas seulement, hein, parce que cet oiseau a été observé dans plusieurs grandes villes comme Marseille, Toulouse, Nancy, Montpellier, Roubaix. Vous en avez, vous, en Suisse ou pas, d'ailleurs?
Oui, à Genève aussi, dans toutes les grandes villes, en Europe, on commence à en avoir. Ouais.
Oiseau très bruyant, hein, qui est donc considéré comme une espèce envahissante et même invasive depuis 2018. Il est interdit d'en introduire sur le territoire métropolitain. Pourtant, je le disais dans le texte d'introduction, les impacts réels sur la biodiversité restent assez faibles.
Pour le moment, oui. Donc pour le moment, c'est plutôt une espèce qui dérange l'humain. Mais après, c'est aussi parce qu'elle reste assez confinée aux villes. Donc souvent, les espèces envahissantes commencent par des points d'introduction qui sont proches des villes, parce que c'est les gens en fait qui emmènent ces espèces. Donc en l'occurrence, des espèces, des animaux de compagnie qui sont relâchés. Et après, on commence à constater des impacts sur la biodiversité plutôt plus tard dans le processus, quand ils commencent à envahir aussi des forêts ou à d'autres milieux plus naturels.
Ouais, il y a des dégâts qui existent dans l'agriculture, dans certains pays, avec ces oiseaux par exemple.
Tout à fait, oui.
Donc on anticipe presque un petit peu les risques.
Oui, il pourrait y en avoir. Oui.
Ouais. C'est difficile de limiter l'expansion d'une telle espèce.
Oui, alors souvent c'est possible quand c'est assez tôt dans l'invasion, dans le processus d'invasion, quand on a quelques individus, c'est encore possible de contrôler l'espèce. Après, plus on attend, plus ça devient difficile, mais bien sûr, sûr. Alors, convaincre qu'il faut faire quelque chose quand le problème n'est pas encore, se pose pas encore, c'est aussi difficile. Donc, voilà, tout le... l'affaire, en fait.
Ouais. Alors, votre ouvrage fait office de confession, puisque vous racontez dès le début du livre avoir vous-même introduit et relâché un animal exotique dans la nature. Racontez-nous. Vous aviez 18 ans, c'est ça ?
J'avais beaucoup hésité à écrire ça en première page.
Shame on you.
Surtout en pensant que peut-être mes collègues vont lire ça. Bon. Mais c'était en fait pour dire que voilà, c'est pas forcément une mauvaise volonté de la part des gens. Donc, c'est juste un manque de connaissances. Donc, moi, j'étais en voyage en Roumanie avec ma grand-mère. Et puis en rentrant, j'ouvre mon sac à dos et je découvre un énorme lézard vert dans mon sac à dos. Donc il a dû grimper à bord. Je ne sais pas si c'était en Roumanie ou peut-être à l'aéroport aussi. Peut-être il venait d'ailleurs. En fait, ouais. Je n'ai aucune idée. Et c'était à 18 ans, donc je n'avais pas encore entendu parler d'espèces invasives et leurs impacts. Et je me suis juste inquiétée de l'animal, en fait. Donc, que faire pour le pauvre animal? Il était complètement froid et congelé. Je l'ai, donc avec mon père, on s'est dit ben, faut qu'on lui trouve un joli endroit dans la vallée du Rhin, où habitent mes parents, assez chaud, avec un milieu il se plaira.
Très mauvaise idée, donc.
Très, très mauvaise idée.
Et donc, vous l'avez relâché dans la nature, c'est ça ?
Oui, c'est ce que j'ai fait. Après, je pense qu'il ne s'est rien passé. Il a dû vivre sa vie, et puis voilà. Ou alors bien, c'était peut-être un mâle, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas entendu. C'était il y a quand même un moment, presque 20 ans.
Il n'y a pas eu une recrudescence de lézards.
C'est un endroit où on va régulièrement, donc on n'a pas vu de lézards. Je pense que s'il y avait eu une invasion, on l'aurait su.
Et vous auriez été clairement identifié comme être à l'origine, comme ayant été à l'origine justement de cette invasion, alors.
Dans ce cas, oui.
Parce que vous citez des exemples où on arrive à savoir qui a introduit une espèce pour la première fois. Hein.
Oui, ça arrive. Donc, par exemple, le lapin en Australie, c'est une des espèces les pires au monde. En fait. Donc là, pour le coup, on sait vraiment qui c'était. C'était un nom au nom Thomas Austin. Et puis là, il a voulu introduire le lapin pour la chasse, en fait.
C'était quand? Au 19e
hein. Au 19e siècle. Et c'était pour organiser des fêtes de chasse. Même le prince Alfred, le fils de la reine Victoria, est venu participer à ces chasses. Et c'était vraiment un très grand succès au niveau introduction, parce que en quelques années seulement, il était déjà une population de 20 000 lapins, je crois qu'en 6 ans. Et puis, c'est l'espèce qui s'est propagée la plus rapidement
c'est
au monde.
C'est ce que vous dites, effectivement. Voilà. C'est une catastrophe écologique pour l'Australie, clairement. Hein.
Complètement. Alors, quand on dit lapin, en fait, il ne faut pas imaginer les petits lapins tout mignons qui sont vendus, qui viennent en toutes sortes de couleurs, mais c'est le lapin assez robuste, c'est plutôt une lièvre, en fait, européen qui tolère un peu tout, climat, aussi nourriture.
C'est ça, robuste, costaud, et qui a adoré l'Australie, donc, voilà. En l'occurrence. Ils s'en sont sortis, d'ailleurs, les Australiens, ou pas ?
Pas du tout, en fait.
Parce qu'ils ont dépensé des sommes colossales, en plus, pour essayer de s'en débarrasser, et ils continuent,
Non, en fait, voilà, c'est impossible. Il a envahi tout le continent australien. Il a des impacts sur toutes sortes de végétaux, mais ensuite aussi sur les animaux qui s'en nourrissent. Dans certains endroits, on a décidé de protéger, par exemple, les parcs nationaux, des endroits qui recèlent d'une biodiversité particulièrement importante. Ce qu'ils ont fait, c'est de construire
des barrières.
Des barrières à lapins à une hauteur de 90 cm du sol. Mais voilà, donc c'est des barrières qu'il faut, il faut tirer sur des milliers de kilomètres pour protéger un endroit.
C'est vraiment une tragédie, en fait, pour le pays. Alors, vous citez tout un tas d'animaux, on va en évoquer quelques-uns, évidemment, en France et à l'étranger. Vous citez, par exemple, le tamia de Sibérie, qui est également appelé écureuil de Corée. C'est un adorable petit rongeur digne d'un film de Walt Disney.
Bien que les tamias vivent au sol, ils sont tributaires des pins de Sibérie. Tandis que l'un se remplit les bajoux, un autre attend son heure. Dans le monde sans pitié des mangeurs de pignons de pin, le gagnant rafle la mise. Avant les premières neiges, les tamias doivent amasser suffisamment de graines et de pignons de pin pour tenir tout l'hiver.
Voilà, adorable petit animal, qui a aussi une histoire française lorsqu'il a commencé à être commercialisé comme animal de compagnie en France et en Italie, d'ailleurs dans les années 60. Sauf que...
Oui, c'est pas un très bon compagnon, en fait. Donc, il pue et il mord.
Ouais, ok.
Et, mais il est vraiment, vraiment mignon. Hein. Grands yeux, trop chou, voilà. Donc, tout ce qu'il faut pour plaire aux enfants. Mais voilà, beaucoup de gens se sont rendus compte après que c'est pas super comme animal de compagnie. Et ils ont fait comme moi avec le lézard. Donc, ils les ont relâchés. Et comme c'est pas une personne, mais pas mal de gens, c'était à l'origine, du coup, de populations quand même importantes dans les grandes villes comme Paris, aussi en Italie, à Milan, oui. En Suisse, à Genève.
Et on le voit toujours, cet animal, ou pas ?
Oui. Donc là, ils sont suffisamment grandes, ces populations aussi, on ne peut plus tellement les éradiquer. Et au début, c'était encore possible, mais comme il est très mignon, oui. ça a tout de suite mobilisé les défenseurs des droits d'animaux pour protéger cet animal qui est adorable, oui. Mignon. Et donc, en fait, il y a un tribunal en Italie, par exemple, qui avait interdit de tuer ces animaux. Et donc, maintenant, c'est trop tard. C'est une population qui est très grande.
Il a trouvé sa place. Alors, un autre animal qui fait régulièrement la une des journaux dans notre pays, c'est le frelon asiatique. Aujourd'hui, une des pires espèces invasives en France. Insecte nuisible qui est présent maintenant dans tous les départements français. Vous en avez là aussi en Suisse ou pas ?
Oui, on commence à en avoir.
Ouais. Et alors ça, c'est pareil. L'introduction d'un animal comme ça, impossible de s'en débarrasser quasiment, non ?
Oui, alors c'est incroyable. L'invasion du frelon asiatique est incroyable. En fait, c'était en 2004 que la première reine a été importée, probablement avec des pots céramiques qui sont venus de Chine. Et en 20 ans, cette espèce, à partir d'un seul individu, a envahi toute la France. Ouais. C'est incroyable. Et avec des effets extrêmement néfastes sur les abeilles, sur d'autres pollinisateurs. Et voilà, donc maintenant, c'est une telle ampleur, cette invasion, ouais. C'est impossible de gérer. Hein. Donc on peut, oui bien sûr, localement, on peut toujours faire quelque chose, on peut enlever des nids du frelon, on peut lutter, mais il faut bien se rendre compte que cette lutte va ouais. rester à un niveau de... ça va réduire les tailles de population, mais pas, ça ne va pas enlever le frelon.
Cléo Berselmeyer, vous travaillez depuis 15 ans maintenant justement sur les invasions biologiques. Est-ce que ce terme d'espèce invasive est très discuté au sein même de la biologie aujourd'hui ou pas ?
Oui, bien sûr.
C'est un thème un peu tabou parfois ou pas ?
Je dirais pas tabou, mais bien sûr avec le vocabulaire, il faut faire très attention et puis il y a un peu des discussion, qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive ? Est-ce qu'on doit appeler invasive toutes les espèces qui sont introduites ou seulement les espèces introduites avec un impact ?
Oui.
Parce qu'il faut se rendre compte que la plupart des espèces qui sont introduites n'ont pas un impact très, très important. Okay, on estime qu'environ 10% de ces espèces ont vraiment un impact sur la biodiversité ou sur l'humain. Mmh. C'est ça qu'on appelle invasive. Mais bien sûr, ça fait toujours débat.
On va citer beaucoup d'exemples avec vous dans un instant puisque vous êtes notre invité autour de cet ouvrage « Comment les animaux exotiques envahissent le monde ?» C'est aux éditions Favre.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
D'une superficie de 68 800 km², le lac Victoria est considéré comme l'une des plus importantes ressources en eau et en pêche d'Afrique de l'Est. Autrefois symbole d'une importante biodiversité, la perche du Nil y a été introduite dans les années 50. La perche du Nil est un poisson apprécié notamment par les Européens et qui a donc offert des débouchés commerciaux pour les habitants au détriment de l'économie locale. L'explosion de la population de cette espèce envahissante dans les années 60 a progressivement anéanti les espèces de poissons indigènes vivant dans le lac, qui comptait plus de 200 espèces de poissons, tout en accroissant la dépendance des pêcheurs, provoquant un désastre écologique majeur.
Voilà l'exemple de la perche du Nil sur la chaîne RTI en 2021. Cléo Berselmeyer, c'est une espèce dont vous parlez justement dans votre ouvrage, vous qui êtes professeur au département d'écologie et évolution de l'université de Lausanne. Ça, c'est un animal, donc un poisson qui a été introduit en 1954 et ensuite ça a été un désastre.
Oui, donc c'est un grand prédateur en fait. Donc déjà le poisson lui-même peut être très très grand. Donc j'ai vu des photos, il fait 2 mètres ou plus.
Ouais.
Donc et puis mange absolument tout ce qui passe par sa bouche. Donc vraiment toutes sortes de petits poissons. Et dans le lac Victoria, ben c'est un endroit qui est très connu pour sa biodiversité en poissons. Et tous les biologistes s'en rappelleront dans leur cours. on a tous vu ces poissons qui sont très colorés, les cyclidés. Et cette seule espèce envahissante est responsable de l'extinction de la moitié des espèces de cyclidés.
Ouais, 300 espèces de poissons cyclidés se sont éteintes. Hein. C'est ça, la moitié 300 espèces se sont éteintes à cause de cet animal qui a pris le dessus. C'est-à-dire que maintenant, il est au sommet de la chaîne alimentaire dans le lac Victoria.
Oui, exactement. Oui.
Ouais. Et plus personne ne peut maintenant devenir son prédateur.
Je pense pas, non. Ouais.
Peut-être les crocodiles du lac,
Peut-être,
pas sûr. 39 215 espèces exotiques, hein, c'est ce que vous expliquez dans le monde, et 200 nouvelles espèces chaque année. En même temps, les autres espèces exotiques continuent de se propager sur la planète et agrandir leur territoire. Les projections sont exponentielles ou pas ?
Pour le moment, il n'y a pas de ralentissement en vue, parce que beaucoup d'espèces sont introduites accidentellement, en fait. Donc, c'est le fruit de la mondialisation, les transports, les déplacements d'humains, et tout ça continue à croître.
Donc, et la France, là-dedans, est un des pays les plus concernés par la menace des espèces exotiques. C'est ce qu'a montré une étude récente.
Hein. Oui, une étude a montré qu'en fait, la France se situe vraiment au centre du réseau d'espèces envahissantes en Europe, avec l'Italie. Donc, c'est vraiment comme une plateforme tournante où les espèces arrivent par d'autres continents et puis commencent d'abord à s'établir en France, puis diffusent dans d'autres pays.
Ouais. Il y a beaucoup d'exemples. Vous citez par exemple une moule originaire d'Ukraine, la moule quagga. C'est ça, c'est son nom, hein, et qui est arrivé dans la région du Rhin, puis de la Moselle, et même chez vous, sur les rives du lac Léman, extrêmement résistante, polyvalente, et elle a le pouvoir de changer radicalement un écosystème lacustre. Hein.
Oui, c'est des moules, en fait, on peut avoir des densités extrêmes. Donc par mètre cube, on peut avoir des densités, 5000 moules, c'est rien. On peut aller jusqu'à, le maximum qu'on a trouvé, c'est 40 000 moules pour un mètre cube d'eau.
Ouais.
Et chaque moule peut filtrer 1 litre d'eau par jour. Donc en fait, c'est énormément d'eau qui passe par ces moules, qui donc appauvrissent l'écosystème, ils mangent tout le phytoplancton, qui est important pour d'autres poissons, enfin pour toutes sortes d'animaux. Et donc, ça a une conséquence sur l'écosystème, mais ensuite aussi, il concentre toutes sortes de toxines. Et c'est un problème pour d'autres espèces qui ensuite mangent ces moules, comme notamment des oiseaux ou d'autres poissons.
Alors, les propriétaires de bateaux ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils dispersent même la moule en mettant leur bateau sur des remorques, par exemple, pour aller explorer d'autres horizons. Et hop, les moules suivent le mouvement.
Oui, c'est un grand problème. Parce que les larves sont tout petits, mesurent que quelques millimètres, donc c'est difficile à voir et c'est extrêmement résistant à la dessiccation. Ils peuvent survivre plusieurs jours attachés à un bateau. Et une étude d'une étudiante a montré que les propriétaires de bateaux déplacent beaucoup les bateaux entre les différents lacs, notamment en Suisse, mais aussi en France, la Méditerranée.
C'est tout bénef pour la moule.
En fait, la moule peut se disperser extrêmement facilement comme ça.
Ouais. Une autre espèce récente qui a fait couler pas mal d'encre et que vous étudiez aussi, c'est la fourmi Tapinoma magnum, originaire du bassin méditerranéen, qui a connu récemment une expansion spectaculaire en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années alors ?
Alors, elle est arrivée avec les plantes, donc avec les plantes en pot, avec la terre, et elle est transportée par des commerces, en fait, des commerces des centres de jardinage. En fait. Mmh. Et voilà, donc elle se disperse dans plein de villes en Europe en ce moment.
Et elles sont capables de former des colonies absolument gigantesques sur des kilomètres, c'est des autoroutes, quoi, en fait, de fourmis.
Donc c'est ce qu'on appelle des super colonies. Donc normalement, chez les fourmis, elles sont en concurrence entre différents nids. Là, c'est pas le cas. Donc c'est comme une gigantesque nid où tout le monde coopère, échange la nourriture, les bébés fourmis. Donc quand on voit ça, c'est assez impressionnant. Hein. Donc ça peut être une surface complètement couverte de fourmis sur des centaines de mètres.
À Lausanne, on vous avait averti, je crois, vous le racontez dans le livre, de la présence de ces fourmis il y a quelques années.
Oui, donc en fait, la première fois, on a été alerté par une crèche où les enfants ils rentraient tous les jours avec couverts de fourmis. Alors cette fourmi-là, au moins, elle ne pique pas, mais elle mordit et ce n'est pas très agréable. Donc, pleurait, puis il se demandait ce qui se passait là.
Oui.
Et il s'est avéré que c'était une fourmi invasive.
Bon, et alors elle est toujours là, évidemment.
Oui.
Rien n'y fait. Même vous qui êtes spécialiste des fourmis, impossible de lutter contre elle.
Non, c'est très difficile parce qu'il y a des milliers de reines aussi. Donc pour éliminer complètement les fourmis de cette zone, il faudrait éliminer toutes les reines.
Oui.
C'est aussi, encore une fois, c'est souvent possible quand c'est encore petit, sur quelques mètres, dizaines ou centaines de mètres, mais quand c'est une invasion assez grande, grande, ça devient très compliqué.
Quelles sont les qualités à avoir quand on veut être une bonne espèce animale invasive alors? Parce que vous avez étudié la question, hein. Quelles sont celles qui finalement réussissent le mieux?
Et moi, je pense que c'est une question très intéressante parce que finalement, beaucoup d'espèces ne réussissent pas. Donc, qui sont les super envahisseurs? Et comme je raconte dans le livre, en fait, il y a une panoplie de caractéristiques qui peuvent intervenir. Par exemple, la curiosité, le fait d'explorer.
Sans avoir peur. Hein.
Sans avoir peur. Donc, ça c'est un trait chez les gambusies, ces petits poissons. On a montré que les espèces envahissantes sont celles qui explorent le plus. L'agressivité, parfois aussi. Donc, ça fait un peu plus sens, disons, on imagine comme ça. Mais il y a des traits qui sont aussi plus inattendus, comme l'intelligence. Donc, notamment chez les oiseaux, on a trouvé que les oiseaux, les reptiles aussi, ont un cerveau plus grand, celles qui sont envahissantes. Et puis aussi, qui ont pas mal de facultés cognitives, à ouvrir les poubelles, se nourrir de différents types de nourriture, accéder à des choses.
Donc, ça, c'est typiquement les rongeurs, par exemple.
Oui, les rongeurs aussi.
Qui sont hyper doués et qui nos rats domestiques, par exemple, qu'on appelle domestiques, qui sont des rats invasifs en réalité. Hein.
Oui, exact. Oui, alors ça c'est assez drôle aussi, parce qu'il y a pas mal d'espèces dont on croit qu'ils sont d'ici, comme le rat ou la souris, le cygne aussi. Et en fait, ce sont des espèces qui ont été introduites il y a longtemps. Le cafard allemand, par exemple, c'est une espèce qui vient d'Asie.
On va écouter l'extrait d'un reportage de TF1 en 1991 autour des écrevisses de Louisiane. Nous sommes en Garonne.
Son nom savant, Procambarus clarki, ce décapode plus connu sous l'appellation écrevisse de Louisiane, est en train de devenir la grande vedette du lac de Pessis, dans la banlieue toulousaine. C'est ce jeune hydrobiologiste pêcheur amateur qui a le premier identifié l'intrus, reconnaissable à ses énormes pinces rouges.
Nous sommes ici sur une eau libre, donc avec une possibilité d'expansion de cet animal qui peut lui permettre de gagner l'ensemble du réseau hydrographique de la Garonne, dont on peut imaginer qu'elle puisse être inquiétante pour l'écosystème.
Cléo Bertelsmeyer, ça c'était en 1991, mais les choses ne se sont pas du tout améliorées, puisque cette crevisse de Louisiane, considérée comme nuisible à Toulouse, dans la région de Toulouse, elle est toujours très présente sur le plan d'eau de la Ramée, qui en est infestée au point d'incommoder les baigneurs parfois. Alors, il faut quand même aussi dire qu'elle fait le bonheur des pêcheurs, hein, Haute-Garonne. Je lisais un article à ce sujet-là. Il y a un pêcheur qui disait « J'en ai attrapé 10 kilos en une heure ». Il déclarait ça à la dépêche. Alors, elle n'est pas plus grosse que les autres, mais elle est beaucoup plus résistante, en fait. Hein.
Non, mais c'est peut-être pas mal pour faire un soufflet des crevisses.
Hein, mais là, il faut s'inquiéter ou pas?
Alors, oui, elle est en concurrence.
À quel moment on tire la sonnette d'alarme, en fait?
Ça, c'est une affaire d'appréciation. Donc, est-ce que c'est un problème si elle est en concurrence avec les écrevisses natives de France? Moi, je pense que oui, c'est un problème. Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont introduites? À quel moment on commence à agir? C'est un choix.
Oui. Et puis les outils à disposition pour s'en débarrasser.
Exactement.
C'est là que le bât blesse aussi, non?
Oui, donc en fait, souvent, si on a un outil assez spécifique pour la lutte contre une espèce, c'est bien de l'employer dès qu'on peut. Oui. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et il faut aussi éviter de déverser des pesticides généralistes dans l'environnement, juste parce qu'il y a une espèce introduite, un insecte, par exemple. Oui. Parce que là, on risque plutôt de fragiliser tout l'écosystème et ça va plutôt avoir un effet contre. Au contraire, parce qu'on a fragilisé la communauté des autres insectes et puis joué en faveur de l'espèce invasive.
Vous travaillez sur quoi alors exactement pour imaginer justement les invasions futures?
Oui, moi je travaille sur l'impact de la mondialisation, sur la dispersion d'espèces d'insectes dans le monde.
Ouais, et alors, quelles sont vos préconisations? Parce qu'on attend beaucoup de vous, j'imagine.
Oui. Alors, bien sûr, on ne peut pas... je pense que le conseil le plus... plus sage que je peux donner, c'est vraiment éviter l'introduction d'espèces. Donc, si c'est accidentel, c'est difficile. Chez les insectes, c'est difficile. Et éviter ça, mais éviter déjà d'introduire les animaux de compagnie, les plantes exotiques, tout ce qu'on a tendance à acheter et relâcher ou qui s'échappe. Ça, je pense qu'on peut faire faire un grand effort. Et puis, deuxième chose, aussi avec les insectes, c'est souvent possible de faire quelque chose quand c'est encore assez tôt dans le processus. Et je pense qu'en fait, quand on est sensibilisé à la question, quand on observe notre environnement, mais en fait, il faut vraiment que tout le monde, le grand public, tout le monde, si on voit quelque chose de bizarre, en France, par exemple, il y a des programmes comme le Muséum, si on peut signaler, si on voit un insecte un peu bizarre, on peut leur envoyer... Oui, on peut leur envoyer une photo. Est-ce que c'est ça le frelon asiatique ou est-ce que c'est le moustique tigre?
Capricorne, vous citez le capricorne.
Oui, ça, c'est une espèce, il faut vraiment faire très attention parce qu'elle peut vraiment causer la mort d'une forêt entière, en fait.
Donc, une forêt, oui.
Oui, et donc ça, c'est une espèce où les autorités ont très peur aussi. Et dès qu'elle est observée, cette espèce-là, on va couper les arbres dans un périmètre de 100 mètres de l'arbre infecté pour vraiment s'assurer qu'elle ne se propage pas. Et voilà, donc si on a déjà vu une photo de cette espèce, on va peut-être la signaler.
Et pouvoir aider donc les scientifiques. Cléo Bertelsmeyer, on se retrouve dans un instant.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
L'escargot géant d'Afrique est un parasite agricole qui se nourrit de plus de 500 sortes de plantes. Nous sommes donc préoccupés par sa présence dans notre environnement. Un autre problème avec cet escargot, c'est qu'il est porteur du ver pulmonaire du rat qui peut provoquer une méningite chez l'homme, et nous avons détecté ce ver vendredi dernier dans notre laboratoire.
Au début, c'était un peu drôle, je veux dire, de les observer. Mais quand on a commencé à comprendre le processus de leur croissance, des maladies, des problèmes qu'ils causent, ils sont alors devenus une préoccupation. Malheureusement, quelqu'un les a ramenés chez lui pour en faire des animaux de compagnie. Il ne faut vraiment pas faire ça.
Voilà, des biologistes américains en Floride, extrait d'un reportage de Cléo Bertelsmeyer, vous qui publiez donc Comment les animaux exotiques envahissent le monde, intelligence et opportunisme aux éditions Favre. Vous évoquez justement cet escargot terrestre géant qui est originaire au départ d'Afrique de l'Est, qui peut atteindre 20 cm de long. C'est le plus grand gastropode terrestre.
Oui.
Il est vraiment répugnant. On l'aime pas du tout. Hein.
Alors, c'est... Moi pas, mais...
Moi non plus.
C'est assez incroyable que sur les réseaux sociaux, on peut voir...
C'est une star.
C'est une star, oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui en achètent et puis qui le mettent sur leur peau, sur le visage, sur la bouche.
Ouais.
C'est justement par ces contacts-là qu'on craint que le ver pulmonaire dont il était question dans l'interview avant puisse se transmettre.
Ouais. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec ce type d'animaux. Comment il est devenu invasif? Alors lui, pareil, il s'est collé sur une coque de bateau et il est arrivé en Floride ou...
C'est ce qu'on imagine, mais non, en fait, il est vraiment transporté comme animal de compagnie.
Ah bon?
Donc les gens l'achètent dans des boutiques et souvent il vient directement de son aire native d'Afrique. Il est importé, oui.
Donc c'est juste parce que c'est amusant d'avoir un escargot géant chez soi.
Alors en fait, il y a un peu une rumeur qui court comme quoi la bave de l'escargot serait bon pour la peau.
Ah.
Mais aucune preuve scientifique que ce soit vrai. Hein.
Ouais. Ça suffit pour alimenter le commerce.
Oui, tout à fait.
Qui pose là aussi, vous le dites, de gros problèmes en fait. Hein.
Très gros problèmes. Donc c'est un commerce gigantesque avec des milliards d'euros en fait chaque année. Le commerce des animaux de compagnie et on compte plus de 5000 espèces d'invertébrés qui sont des gastéropodes, des araignées, des scorpions, des fourmis, toutes sortes de choses. Il y a vraiment un engouement des gens pour ce qui est exotique. Et voilà. Et puis après, il y en a qui relâchent ces animaux dans la nature.
Alors parlons justement des impacts sur la santé des animaux invasifs, parce qu'ils sont réels. Le transport peut augmenter la circulation d'agents pathogènes, hein, justement, ce type de commerce, et donc l'émergence de nouvelles maladies avec donc ces contacts entre humains et animaux exotiques.
Oui, tout à fait. Donc, avec le Covid, on a parlé beaucoup de zoonoses. Donc, c'est ces maladies qui sont transmises par des animaux à l'humain.
Ouais.
Et il a été montré par des études scientifiques que dans des pays où il y a plus d'animaux exotiques introduits, il y a plus de zoonoses qui émergent.
Ouais. On parlait du cas du moustique tigre, par exemple, tout à l'heure. Il est tout à fait intéressant parce qu'il est aujourd'hui considéré comme le plus invasif au monde. Très bonne capacité d'adaptation. Il transmet des maladies, d'ailleurs.
Oui, ouais. Oui, il y a plus d'une vingtaine de virus différents, dont des virus qui sont la dengue, la chikungunya, la fièvre jaune. Donc vraiment des maladies assez importantes qui sont transmises par ce... Ouais.
On peut avoir ces maladies en Europe et France métropolitaine, par exemple.
Exactement. Donc jusqu'à présent, ans, c'était pas possible. Donc c'est souvent en rentrant de voyage qu'on se rend compte qu'on a attrapé un virus comme ça. Mais maintenant, vu que le vecteur de ces maladies est présent sur quasiment tout le territoire français, on peut même avoir des cas de transmission en France.
Parmi les qualités, parce que ça c'est aussi intéressant, vous l'abordez, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, les qualités d'un animal invasif, c'est, vous le disiez, l'opportunisme par exemple, c'est de pouvoir vraiment utiliser toutes les aires possibles et s'en servir pour proliférer.
Voilà, donc si on n'est pas trop regardant ce qui concerne la nourriture, l'abri, l'habitat, voilà, on peut un peu s'établir partout en fait. Ouais. Et ça, c'est une caractéristique générale.
Donc c'est mieux d'être généraliste que spécialisé pour un animal qui souhaite envahir quelques contrées.
Oui, en général, c'est le cas. Mais ceci dit, on commence à voir aussi de plus en plus de spécialistes chez les insectes. Donc des spécialistes qui sont spécialisés sur une plante hôte.
Oui.
Mais quand en fait les plantes commencent à voyager aussi, ça ouvre des possibilités aussi par rapport à ces spécialistes.
Et qui arrive alors le premier, la plante d'abord, ensuite l'insecte va suivre. Et ça peut être sur un temps assez long d'ailleurs, vous dites.
Oui, donc on a constaté un temps de une centaine d'années. C'est un doctorant dans mon équipe qui a trouvé ça. Et ce qui permet aussi de faire des prédictions, donc des endroits comme l'Afrique tropicale, l'Asie tropicale et en Amérique du Sud qui ont commencé à importer beaucoup de plantes ces dernières décennies. Mais qui n'ont pas encore vu les insectes qui se nourrissent de ces plantes. Donc on pense que très probablement dans le futur, ces pays-là vont voir plus d'invasions d'insectes.
Donc c'est une mauvaise idée en réalité.
Oui.
Quand on se projette dans le futur, de favoriser l'arrivée de ces plantes.
Oui.
Parmi les qualités, c'est la socialité aussi qui contribuerait au succès invasif des espèces animales. Alors, c'est le fait de vivre en groupe
Oui, en fait, souvent on imagine un envahisseur comme le plus fort, le plus dominant, mais en fait, c'est pas nécessaire. L'union fait la force aussi. Ouais. Donc, chez des insectes sociaux, donc les guêpes, les fourmis, les termites, les abeilles, on voit une surreprésentation de ces espèces, dont les espèces invasive.
Ouais.
Donc c'est vraiment le fait de vivre en société.
C'est ça. Et la coopération donc.
La coopération. Oui.
Ça, ce sont des bons atouts pour pouvoir justement proliférer.
Exactement, oui.
Alors vous terminez votre ouvrage en vous demandant comment on devient invasif. Mais ça reste une des grandes énigmes en fait, qui persiste en biologie. C'est-à-dire qu'on a ces pistes-là, mais pourquoi une espèce connaît une explosion démographique dans certains endroits? Là, les explications sont plus difficiles.
Alors, il y a plusieurs hypothèses que j'évoque dans le livre, mais ça, c'est une grande énigme. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette espèce, quand elle est chez elle, ne cause pas de dégâts? Quand elle est ailleurs, elle explose et cause plein d'impact. Donc, parmi les hypothèses que j'évoque, il y a la perte des ennemis. Donc, souvent, les espèces...
Libérées de ses ennemis, c'est ça.
Sont libérées.
Ils nous foutent la paix, donc là, on peut envahir le terrain.
Dans les écosystèmes où les espèces ont évolué, elles ont aussi des prédateurs, des parasites, des compétiteurs. Et puis, en fait, quand elles sont introduites ailleurs, elles perdent une grande partie de ces autres espèces qui régulent son abondance.
Ouais. Vous parlez de la rascasse volante, par exemple. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la rascasse volante?
Alors, c'est une espèce de poisson, très jolie d'ailleurs, qui a commencé à proliférer. Les chercheurs ont regardé dans les populations introduites et natives. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup moins de parasites, en fait, dans l'air introduite, et probablement c'est à cause de ça que sa démographie a explosé.
Alors vous parlez aussi d'exemples encore plus étonnants, je dirais, parce que c'est les lions, des lions affamés à cause d'une petite fourmi, la fourmi à grosse tête qui a été capable de chambouler tout leur écosystème, en fait, c'est ça?
Oui, donc c'est au Kenya que ça se passe. La fourmi, elle a eu un impact, causé le déclin d'une autre fourmi. Cette fourmi, elle a une symbiose avec un arbre, un acacia, donc elle protège l'arbre des herbivores.
Ouais.
Donc, à cause de la disparition de la fourmi, les herbivores ont...
plus de nourriture
ont mangé, en fait, les arbres, qui n'étaient plus protégés par la fourmi. Les herbivores ont défolié les arbres. Et donc, en fait, les lions avaient un problème, parce que normalement, ils se cachent derrière ces arbres pour chasser le zèbre. Donc, le zèbre a vu le lion, fichu le camp, et puis le lion est obligé de se rabattre sur des proies beaucoup plus grandes, comme des buffles, et c'est dangereux. Et,
difficile à avoir.
Beaucoup plus difficile, et ça a chamboulé tout l'écosystème.
Donc les pauvres lions deviennent affamés à cause de ces fourmis, puisque vous avez remonté toute la chaîne. faune. Exactement, ouais. En réalité. Merci beaucoup, Cléo Bertelsmeyer. Comment les animaux exotiques envahissent le monde, l'intelligence, l'opportunisme, c'est un ouvrage que vous publiez aux éditions Favre. Merci beaucoup d'être venu depuis Lausanne nous en parler cet après-midi.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.